Décryptualité, semaine 12. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, cette semaine, une toute petite revue de presse.
Minuscule, que j'hésite même à publier, je suis encore dans l'expectative.
C'est pas la taille qui compte, Manu, c'est la qualité.
Oui, bah alors faut voir au niveau de la qualité, c'est des sujets dantesques.
Il y a un sujet à troll, Mag, on t'écoute.
Alors, Numérama, pourquoi le retour de Richard Stallman agace le monde du logiciel libre par Julien Lausson.
Donc oui, bah, Richard Stallman est revenu au board, à la direction de la Free Software Foundation. Et effectivement, ça fait discuter plein de gens qui sont pour, qui sont contre, et notamment pas mal d'associations et d'entreprises qui contribuent à la Free Software Foundation et qui soit le soutiennent, soit ne veulent plus de lui et retirent leur soutien à la fondation ou font des appels à la démission globale de tous les dirigeants.
Voilà, une des choses qui pose problème dans ce retour, c'est que Stallman revient sans explication ni prendre de position sur ce qu'il avait amené à démissionner. Et voilà, c'est une pilule qui a du mal à passer chez certaines personnes.
ZDNet France, la fondation Wikimedia veut vendre aux géants de la tech un accès amélioré aux données de Wikipédia par Thierry Noisette.
On a déjà abordé le sujet la semaine dernière. Donc effectivement, les GAFAM, parce que c'est de eux dont il s'agit essentiellement, utilisent beaucoup, beaucoup Wikipédia. Ils en intègrent des morceaux où ils utilisent comme référence, comme données de base. Et effectivement, bah, Wikipédia, les associations qui sont derrière essayent de former des sortes d'associations économiques qui vont leur permettre de récupérer un petit peu de valeur et bah, de contribuer à leur fonctionnement. Parce que tout ça, ça ne tourne pas sur du vide, ça tourne sur des gros serveurs qui sont distribués dans le monde entier et il y a des équipes assez impressionnantes derrière. Donc ça peut être pas mal que tout le monde y travaille. Alors le sujet de la semaine, parce qu'il y a eu une grosse news qui est tombée et qui était assez triste.
On a appris la mort de Yann Le Polotech. Alors ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais pour nous libristes, c'est quelqu'un qui était très important. Donc c'était un des membres du Parti communiste qui avait permis au logiciel libre de revenir à la fête de l'humanité et donc de participer à cet événement totalement incontournable.
Alors, je fais partie des gens qui sont allés à la fête de l'humain. Je ne les ai pas toutes faites. Il y a quelques années, j'ai un peu eu ras-le-bol des stands, mais j'y suis allé quand même quelques fois. Et c'est le genre d'événement où on croise évidemment beaucoup, beaucoup de gens et des gens qui ne sont pas nécessairement des libristes, parce qu'il y a des événements qui sont organisés par des associations libristes régulièrement, auxquelles l'April peut aller, et d'autres associations également. Mais on a souvent tendance dans ces événements à croiser des gens qui sont déjà dans le mouvement. Et là, c'était l'occasion de rencontrer du public qui est là pour le concert, etc., qui souvent a un petit peu de temps à perdre. Et c'était quand même une occasion incroyable de parler de du libre, etc. Et c'est grâce à lui que c'est revenu, puisqu'à un moment, ça s'était arrêté, manque de sous. Et lui et quelques autres se sont mobilisés pour remettre ça en place.
Il faut savoir qu'il s'est battu pour qu'il y ait un espace logiciel libre. On était placés dans la grande halle. Et chaque année, on avait un peu plus d'espace que les années précédentes, parce que lui, il croyait en logiciel libre. Et surtout, bah, il préparait ça toujours longtemps à l'avance. Il y avait des réunions où toutes les associations qui allaient faire partie de stand se rencontraient. Il y avait vraiment beaucoup de monde autour, ça faisait des discussions incroyables. Et il était toujours là, souriant, bienveillant, accueillant. Bref, une personne adorable.
Et donc si on parle de lui ce soir, bah, c'est qu'il est décédé malheureusement du Covid à 59 ans, donc c'est quand même très jeune. Ce qui démontre que cette épidémie, c'est pas juste du flan. Et voilà, ça fait bizarre. Moi je le connaissais pas aussi bien que toi, je l'ai vu croiser une fois ou deux en réunion. Ça faisait partie de ces gens qui sont pas très connus en dehors des communautés. Mais qui se bougent les fesses pour déplacer leur petit bout de montagne et pour changer les choses un petit peu. Là, c'était quand même quelque chose de relativement important. Ça change effectivement pas la face du monde, on pourra toujours dire ça. Mais bah, c'est avec des gens comme lui que le libre avance et que localement, chacun dans son coin, on arrive à faire des choses qui fonctionnent.
Je dirais, moi je ne l'ai pas rencontré, mais que de ce que je vois, vous, il vous a permis de rencontrer du monde, et du monde qui n'est pas que des gens qui sont dans le Parti communiste, mais vraiment un public très large. C'était des milliers et des milliers de personnes qui passaient devant les stands, qui passaient au milieu du village du Libre. Tout le monde ne s'y intéressait pas, mais au minimum, ça leur permettait de voir qu'il y avait quelque chose qui se proposait, voilà, de changer un petit peu la manière dont on traitait l'informatique, les ordinateurs, les informations, les données. Donc il y avait quelque chose d'ouvert, et ça c'était pas mal. Je sais que ça se retrouvait dans d'autres endroits, mais c'était une grosse occasion. Je ne sais pas combien il y avait de personnes qui passaient dans ce lieu. Quoi, une vingtaine de milliers de personnes peut-être, 50 000 personnes, je ne sais même pas.
Alors c'est clair que tenir le stand à la fête de l'humain, c'était épuisant. C'était du jeudi au dimanche et c'était vraiment prenant, avec énormément de gens qui avaient des questions totalement inhabituelles par rapport aux autres stands d'informatique. C'était extraordinaire comme expérience. C'est quelque chose que je faisais tous les ans depuis que Yann nous donnait un stand, un espace comme ça, et qui était très enrichissant, quelle que soit l'association à laquelle on participait, quoi. On se rencontrait entre plusieurs associations sur le stand de logiciel libre. Moi, j'ai discuté avec des gens, des makers, j'ai discuté avec des gens qui défendaient plutôt le bien commun. Bref, c'était passionnant.
Voilà, c'était quelqu'un aussi qui, au niveau du Parti communiste, poussait cette question du numérique, de l'informatique libre et toutes ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un dont l'action va nous manquer. On regrette forcément son décès. Et on se disait que c'était aussi l'occasion de parler de toutes ces activités plus ou moins locales menées par des bénévoles et qui n'ont l'air de rien, mais on change malgré tout les choses. Parce qu'on peut se dire que tenir un stand, finalement, sert à rien. Hein. Beaucoup de gens qui passent sont là parce qu'ils ont du temps à perdre entre deux concerts. Des fois, on sent qu'ils sont un petit peu fatigués par ce qu'on leur raconte. Pas très intéressés. Et donc, on peut se dire, bon, à quoi bon, on radote pendant 2-3 jours, on s'explose la voix parce que c'est bruyant. Et on peut se dire, est-ce qu'on perd pas son temps, finalement?
Et puis, en fait, non, parce que après la fête de l'UMA, quelques jours, ou des fois quelques semaines, il y a des gens qui reviennent nous voir avec « Je vous ai rencontré à la fête de l'UMA et du coup, c'est intéressant, dites-moi en plus. » Donc, on pissait pas dans des violons, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est un des intérêts de la fête de l'UMA, c'est que, bon, il y a plein de gens qui viennent juste pour la musique et la bouffe, etc. Mais il y a aussi pas mal de gens qui ont des convictions, qui cherchent des alternatives et les contacts étaient très bons. Et je dirais que même les gens qui s'en foutent complètement, on a au moins cet avantage de leur avoir parlé de logiciel libre au moins une fois. Donc même si ça changera rien à leur comportement, ils savent que ça existe parce qu'ils en ont entendu parler. Et peut-être que ça changera leur comportement un jour, ou en tout cas la fois d'après quand ils entendront parler de leur liberté informatique, il y a un petit truc qui passera dans leur cerveau et ça s'accumule petit à petit. Et donc, c'est jamais complètement perdu.
Et ce qui était amusant, c'est d'une année à l'autre, les gens qui venaient en disant « Alors, c'est quoi les nouveaux services que les chatons ont mis en place ?» Voilà. Et ça, c'était original comme question parce que ils venaient trouver des nouvelles alternatives. Ils venaient voir quels étaient nos combats. Et ce n'est pas des choses qu'on a régulièrement sur les stands. Ou alors les gros câlins. Les gens qui disent « Ah, toi, t'es Framasoft, je te fais un gros câlin, merci !» Voilà, ça, c'est pas... Voilà. Ça, c'est inhabituel.
Oui, ça marche quand ils sont pas mauvais, hein, quand même. Mais...
ça voilà. A lieu avec la boue, avec les pogos dans la foule, le fait qu'il y avait des gens qui doivent être là plusieurs jours d'affilée, sans à peine dormir. Hein.
Ouais. Voilà, bon, c'est l'occasion aussi de parler à des gens très variés. Hein. Il y a des moments où on rigole beaucoup, des moments où on rigole moins. Je me suis moi retrouvé à parler avec des gens qui viennent en découdre. Hein. Ils sont clairement de l'autre côté et ils ont des comptes à régler. Il y a des gens voilà, qui s'en foutent. Hein. Une anecdote qui m'avait fait beaucoup rigoler sur un stand. Lionel Alorge, notre ancien président, avait mis des menottes pour illustrer les menottes numériques, en fait. C'est ça, les DRM. Et il avait donc mis des vraies menottes. Et il y avait un couple qui était là. Je commence à leur servir mon baratin libriste. Et tu vois, ils regardent les menottes et je me rends bien compte qu'en fait, ils en ont rien à foutre de ce que je leur dis. Et donc, comme ils regardent les menottes, je dis « Oui, bon, là, c'est pour parler de liberté numérique, mais je sais qu'on peut s'en servir pour autre chose. » Et là, je les vois qui rigolent. Et évidemment, ils étaient en train de fantasmer sur le fait de s'attacher au lit avec les menottes.
Il avait aussi fabriqué un clavier avec des picots sur chaque touche pour montrer qu'on pouvait être dans une informatique où il était difficile de s'exprimer. Et effectivement, les gens s'amusaient avec ce clavier à foison. Hein. C'était un vrai jeu.
Et puis en général, ils le regardaient. Ils disaient, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'était un super outil pour que les gens se posent des questions et amener le débat, en fait. Dans le genre, il y a également Oliver qui avait fait un truc excellent. Il avait inventé une recette et fait des sortes de petites pâtisseries avec une recette qu'il avait inventée lui-même. Et on faisait manger ça au stand aux gens qui passaient pour leur expliquer que de la même façon que dans cette recette qu'ils mangeaient, ils essayaient de deviner les ingrédients, ils devaient essayer de comprendre ce qu'il y avait dans, et que c'était finalement très compliqué de savoir ce qu'il y avait dans le truc qu'on leur faisait manger, et bien dans un logiciel compilé, c'est la même chose, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. De l'intérêt d'avoir des licences libres et d'avoir accès au code source pour savoir ce qu'on nous fait consommer, entre guillemets, côté logiciel. Et donc l'analogie marchait très bien. Et c'était un super moyen d'accrocher les gens, de leur faire bouffer un truc et de leur dire « Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dedans ?»
C'était très bon d'ailleurs, ces petites friandises d'Oliver.
On peut rappeler que les recettes de cuisine, c'est un des domaines où il n'y a pas vraiment de droit d'auteur. On ne peut pas dire « C'est ma recette et personne d'autre a le droit de l'utiliser ». C'est comme les parfums et il y a quelques autres choses comme ça. La science, hein, par exemple. On ne peut pas dire « C'est à moi et personne d'autre ne peut en faire quoi que ce soit ». Donc les recettes de cuisine, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup comme analogie.
Alors côté bénévolat, on a les stands hein, qui sont une chose, mais on a d'autres activités. Tous les libristes ne vont pas sur les stands. Il faut aimer parler au public. Hein. Il y a plein de gens qui ne sont pas très à l'aise avec ça, qui ne sont pas dans cette idée d'alpaguer les gens, de leur parler, etc. Mais on a plein de choses qui se font. Donc on a les install-parties.
Il y a aussi les conférences. Je sais que notre présidente Véronique Bonnet à l'April donne énormément de conférences, tout comme les bénévoles de Framasoft qui vont dans des écoles, dans des bibliothèques, dans des CMA. Enfin, voilà, les conférences, c'est pas mal. Tu disais que les gens n'aimaient pas forcément parler au public. On peut aussi écrire des articles. Pour revenir à Yann Le Polytech, il avait présenté quasiment tous les stands aux journalistes de l'UMA qui avaient interviewé plusieurs bénévoles. Un bénévole peut aussi écrire lui-même un article sans être interviewé par un journaliste et être publié sur un site, sur un média, papier ou autre.
Oui, et il peut écrire dans les forums parce qu'il y a plein de gens qui vont chercher des informations sur Internet. Et cette disponibilité des bénévoles sur les forums pour aider les gens, notamment avec la technique ou pour faire des choix, ça a énormément de valeur également, notamment le forum Ubuntu dans lequel il y a énormément d'informations. Et quand on cherche des infos pour se dépanner sur notre GNU Linux et sur d'éventuels problèmes qu'on peut avoir, on tombe très souvent sur les forums d'Ubuntu. Mais c'est pas les seuls, bien sûr.
Alors tout ça, c'était à une autre époque. Hein. Rappelons-le, il n'y a plus beaucoup de rencontres physiques. Et donc, il y avait pas mal de villages du libre, d'installations où les gens pouvaient physiquement se revoir. Et Mag est une des spécialistes. Hein. Elle a fait plein d'endroits.
Ouais, je me souviens de Cyril Guéquière qui nous avait contacté pour faire un petit village du libre dans un événement totalement grand public qui s'appelait Geekopolis. Et lui, il était un informaticien qui touchait un petit peu au logiciel libre et il voulait apporter le logiciel libre dans son grand salon. Donc je voudrais aussi saluer Naya et toute sa famille, toute l'équipe qui sont derrière les Geek Ferries, qui eux utilisent des logiciels libres pour tout ce qu'ils font, ou quasiment tout ce qu'ils font, et qui voulaient partager avec leurs fans, leurs amis, toute la philosophie du logiciel libre lors justement des fameuses Geek Ferries qui avaient lieu dans un parc à côté d'un château. C'était vraiment extraordinaire comme expérience.
Et puis il y avait également les rencontres mondiales du logiciel libre, où des associations locales de libristes se sont lancées dans des projets énormes, parce que la préparation prenait beaucoup de temps, nécessitait beaucoup de boulot, de trouver des sous, etc. Énormément de stress et de responsabilité pour les gens qui ont fait ça bénévolement et qui sont aujourd'hui plutôt tombés en désuétude. Hein. Ça fait quelques années, même avant le Covid, qu'on n'en avait pas eu. Mais on a eu des années et des années d'événements où les libristes ont pu se rencontrer et avec des gens qui se sont donnés corps et âme pour que ça marche. Là aussi, je suis très admiratif de ce boulot-là.
Sur ce, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine.
Voilà, et une dernière fois, bravo à tous les bénévoles et on aura une petite pensée pour Yann et peut-être pour la prochaine édition de la Fête de l'UMA où j'espère on aura toujours des stands.
À plus.
Salut tout le monde.